Vous écoutez On lit pour vous.
Découverte étonnante dans les abysses. De l'oxygène noir produit par des roches. Un texte de Marine Cornu, paru le 19 mars 2025 dans Québec Science. Des scientifiques ont découvert que de l'oxygène était produit au fond des océans par de simples cailloux. Voilà qui pourrait bouleverser notre vision de la vie sur Terre et contrecarrer les plans des industries minières. À cette profondeur, l'obscurité est totale. Mais si on y voyait quelque chose, les plaines du fond des océans nous apparaîtraient comme des déserts sans intérêt. Imaginez des milliers de kilomètres carrés de boue parsemés de galets sombres à plus de 3000 mètres sous la surface, où règne une pression colossale et un froid inhospitalier. Pourtant, ces plaines abyssales, que l'on trouve en particulier dans les océans Pacifique et Indien, sont hautement convoitées. Car leurs galets sombres sont en fait des nodules polymétalliques, des concrétions rocheuses de 5 à 20 cm de diamètre qui se sont formées avec une lenteur infinie, un peu comme des stalactites rondes grossissant par couches concentriques. Ils ont accumulé pendant des millions d'années, micromètre par micromètre, des minéraux dissous dans l'eau, manganèse, nickel, cobalt, mais aussi terres rares, molybdène et lithium. Autrement dit, ce sont des pépites bourrées de métaux et de minéraux critiques très prisés des industries, notamment pour la fabrication de batteries. Ils font rêver les compagnies minières. Depuis des années, des programmes d'exploration sont en cours pour trouver des moyens de ramasser ces batteries rocheuses, comme on les surnomme. Or, on ne pensait pas si bien dire, car ces cailloux pourraient effectivement être de véritables piles. Loin d'être inertes, les nodules produiraient en effet de l'oxygène, en générant un courant électrique suffisamment fort pour dissocier les molécules d'eau, H2O, en oxygène et en hydrogène. Du jamais vu. Cette découverte est déroutante. Jusqu'à maintenant, on pensait que seule la photosynthèse, effectuée grâce à la lumière par les cyanobactéries, les algues et les plantes, pouvait enrichir l'environnement en oxygène. De l'oxygène noir produit dans l'obscurité, c'est vraiment une surprise, s'exclame Anna Metaxas, professeure au département d'océanographie de l'Université Dalhousie à Halifax. Elle n'a pas participé à cette étude, publiée dans Nature Geoscience à l'été 2024, mais fait partie de la communauté scientifique spécialiste des fonds marins, très intriguée par la nouvelle. Même chose pour Verena Tunnicliffe, biologiste marine renommée et professeure à l'Université de Victoria. Nous essayons encore de saisir les implications de cette découverte, déclare-t-elle prudente. Oups, une erreur? Pour mieux comprendre, il faut plonger dans la zone de Clarion-Clipperton, une plaine abyssale située dans l'océan Pacifique entre l'Amérique centrale et Hawaï, et dont la superficie équivaut à la moitié de celle du Canada. C'est là que l'on trouve le gisement de nodules le plus prometteur pour l'exploitation minière. 21 milliards de tonnes prêtes à être ramassées. Et c'est là qu'une équipe internationale, menée par Andrew Sweetman, professeur d'écologie à l'Association écossaise des sciences océaniques, s'est arraché les cheveux pendant une dizaine d'années. Son but était d'étudier l'écosystème peu accessible des grands fonds, micro-organismes, crustacés, anémones. Ce chercheur et ses collègues utilisent pour cela des sortes de boîtes hermétiques qui se scellent au fond de l'eau et y mesurent les échanges gazeux. Des chambres benthiques. On savait déjà qu'il y a de l'oxygène au fond de la mer. Il est produit en surface par le phytoplancton puis se dissout, notamment dans les eaux froides, qui peuvent contenir deux fois plus d'oxygène que les eaux chaudes. Les eaux froides, plus denses, coulent en profondeur. l'oxygène qu'elles contiennent permet aux écosystèmes abyssaux de respirer. Mais en 2013, l'équipe écossaise remarque une augmentation du taux d'oxygène dans plusieurs de ces dispositifs scellés sur les nodules. Toutes les études réalisées jusqu'alors dans cette zone avaient montré que l'oxygène est consommé par les organismes. Le taux dans la boîte était donc censé diminuer. Convaincu qu'il s'agit d'une erreur de mesure ou d'un défaut de matériel, Andrew Sweetman renvoie les capteurs de gaz plusieurs fois aux fabricants. Il réitère l'expérience pendant 10 ans au fil de plusieurs expéditions et multiplie les contrôles pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Ces étranges accumulations d'oxygène continuaient d'apparaître, relate-t-il dans un communiqué lors de la publication des résultats. Le constat semble indéniable. De l'oxygène est fabriqué au fond de l'eau sans la moindre lumière et il émane des nodules. L'équipe a été très prudente, mais Andrew Sweetman a fini par être suffisamment sûr de lui pour publier les résultats, explique Anna Metaxas. En poussant les analyses au laboratoire, l'équipe a mis en évidence l'existence d'une tension électrique à la surface de certains nodules. Celle-ci ne dépasse pas les 0,95 volts. Or, pour électrolyser de l'eau de mer, on estime qu'une tension de 1,5 volts est nécessaire, l'équivalent d'une pile 2A. Selon l'équipe, la présence de plusieurs nodules électrisés côte à côte pourrait toutefois suffire à faire augmenter le voltage et à briser les molécules d'eau. Reste à comprendre d'où sort cette tension. L'étude avance que les ions métalliques présents dans les différentes couches des nodules pourraient s'échanger des électrons et donc générer un courant. Une quantification impossible. Évidemment, il reste beaucoup de questions non résolues. De plus, la production d'oxygène n'est pas continue. On ne peut pas prendre ces résultats et les multiplier par la surface des champs de nodules pour généraliser, avertit Anna Metaxas. Impossible, donc, d'estimer les quantités d'oxygène qui pourraient être générées par ces surprenants cailloux. Les données montrent que la production se stabilise peu à peu dans la chambre benthique, donc quelque chose la ralentit. Selon les auteurs, il se pourrait que la production d'oxygène soit faible, sauf lorsqu'une perturbation importante se produit, indique la biologiste Verena Tunnicliffe. Le fait de remuer ces paysages immobiles depuis des milliers d'années en dépoussiérant les nodules de leur couche de sédiments lors de la descente des chambres hermétiques aurait donc pu contribuer à réveiller l'électrolyse. Mais même une faible production d'oxygène dans un lit de nodules non perturbé aurait probablement un effet important sur l'activité microbienne, reprend la chercheuse. Plus d'oxygène signifie plus d'énergie disponible pour la croissance et la production de nourriture. L'oxygène est la monnaie d'échange clé pour soutenir la vie et les réactions chimiques dans l'océan. S'il existe une production d'oxygène dans les fonds marins, cela modifiera assurément notre vision des abysses. Notre vision des abysses est même notre vision des origines de la vie. Si l'oxygène peut naître d'un caillou, on peut imaginer que des formes de vie complexes auraient pu évoluer tout au fond des océans plutôt que d'apparaître en surface grâce à l'oxygénation effectuée par les premières cyanobactéries. Ce phénomène pourrait-il aussi exister ailleurs dans le système solaire, par exemple dans les océans d'Europe ou d'Encélade, lune glacée de Jupiter et de Saturne? Voilà qui ouvre un nouveau champ des possibles. Chose certaine, si la production d'oxygène abyssale est confirmée par d'autres études, elle bouleversera nos certitudes. Est-ce que ça remet en question nos hypothèses sur l'émergence de la vie? À ce stade, je ne peux pas vous le dire, mais qui sait, lance Anna Metaxas avec enthousiasme. Elle est persuadée que cette hypothèse donnera lieu à de fascinantes investigations. Je ne suis pas surprise qu'on découvre des choses inattendues dans les abysses, encore largement inexplorées. Je vous rappelle qu'on ne connaît l'existence des sources hydrothermales que depuis 1977. Ses sources d'eau chaude, hyper riches en minéraux, abritent des communautés biologiques remarquables qui y trouvent une source d'énergie chimique pour croître. Leur découverte, dans un lieu que l'on pensait sans vie, a bousculé notre vision des océans et donné lieu à de nombreuses campagnes d'exploration biologique. Les nodules métalliques qui laisseraient s'échapper des bouffées d'oxygène, au point peut-être de soutenir activement la vie sur place, porteraient le même message. Le fond des océans n'est pas si inintéressant ni imperturbable qu'on le pense. Vous écoutez « Découverte étonnante dans les abysses » de l'oxygène noir produit par des roches. Des résultats qui dérangent. Et c'est bien ce qui déplaît à The Metals Company. Cette société d'exploration minière sous-marine basée à Vancouver a financé en partie les recherches d'Andrew Sweetman dans la zone de Clarion-Clipperton. Depuis plusieurs années, elle explore activement cette plaine et compte obtenir dès que possible un permis d'exploitation commerciale. Sans surprise, l'entreprise est montée au créneau dès que l'équipe écossaise a annoncé ses résultats et elle a publié une réfutation immédiate sur un site de prépublication. Selon les auteurs, la méthodologie employée par Sweetman est mauvaise, les résultats sont incohérents et les analyses incomplètes. Tous les scientifiques ont réagi avec curiosité et excitation à l'article de Sweetman. Les gens de The Metals Company, eux, ont évidemment été embêtés par le fait que quelque chose de spécial pouvait se dérouler au fond de l'eau, constate Anna Metaxas. Le questionnement scientifique est toutefois légitime, comme en témoigne Mathias Ekel, biogéochimiste marin au Centre de recherche océanographique Geomar Helmholtz en Allemagne. Son équipe mène depuis longtemps le même type de recherche que celle d'Andrew Sweetman, avec des enceintes hermétiques similaires, dans le cadre du projet européen Mining Impact. Nous n'avons jamais observé de production d'oxygène lors de nos déploiements, dit-il. Selon lui, il reste des doutes sur la validité des mesures. De l'air aurait pu se retrouver piégé sous le couvercle de la chambre benthique et se dissoudre dans l'eau, en créant un profil d'augmentation semblable à celui trouvé par Andrew, avance-t-il. Par ailleurs, cette histoire de courant un peu trop faible pour l'électrolyse est problématique. Quant à l'importance biologique de cet oxygène noir, elle reste à débattre, dit-il. Si une surface de nodule propre est nécessaire pour la production d'oxygène, la question est de savoir dans quelle mesure cela se produirait dans un environnement naturel, c'est-à-dire sur des nodules non perturbés. Quoi qu'il en soit, trouver dans la nature une voie de production d'oxygène indépendante de la lumière serait sensationnel. Il est maintenant important que d'autres scientifiques puissent confirmer ou infirmer l'observation d'Andrew. L'une des pistes, mesurer la présence éventuelle d'hydrogène, un gaz qui se dégage en même temps que l'oxygène lors de l'électrolyse de l'eau. Je suppose que la démarche prendra quelques années, car la recherche en eau profonde est coûteuse et les zones ne sont pas facilement accessibles. Notre prochaine expédition dans la zone de Clarion-Clipperton aura lieu dans 2 ou 3 ans seulement. Andrew fera partie de la prochaine phase de Mining Impact et nous prévoyons comparer nos méthodologies, explique Mathias Ekel. En fait, cette histoire intrigante illustre à merveille le fonctionnement de la science, se plaît à répéter Anna Metaxas. Personne, et surtout pas les scientifiques à l'origine de cette publication, n'affirme détenir la vérité. En recherche, personne n'a ce type de confiance. L'hypothèse est maintenant lâchée dans la nature et il va falloir que plusieurs personnes la testent à plusieurs endroits et avec plusieurs méthodes. C'est ça, la science. En attendant, la possibilité d'un oxygène noir devrait suffire à protéger ces précieux champs de nodules porteurs d'une histoire de plusieurs millions d'années. C'est ce que plusieurs délégations étatiques, organisations écologistes et scientifiques ont fait valoir l'été dernier lors d'une réunion de l'Autorité internationale des fonds marins, l'Agence des Nations unies qui contrôle la prospection et la future exploitation minière dans les eaux internationales. Cette découverte souligne à tout le moins la nécessité d'une science bien menée et d'un travail plus approfondi pour comprendre les conséquences de l'exploitation minière avant que celle-ci ne débute, affirme Verena Tunnicliffe, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les grandes profondeurs océaniques. On a si souvent fait l'inverse dans notre histoire. Espérons que la science primera sur les profits. La menace de l'industrie minière. Pour ramasser les milliers de tonnes de nodules qu'elle convoite, The Metals Company compte utiliser un véhicule autonome muni d'une sorte d'aspirateur qui enverrait les roches sur un bateau. Cette procédure, dont les répercussions sont impossibles à évaluer précisément, pourrait soulever une colonne de sédiments qui s'étendrait sur des centaines de kilomètres, ce qui perturberait les écosystèmes abyssaux et potentiellement ceux de la colonne d'eau au-dessus, et libérerait peut-être, du même coup, d'immenses quantités de carbone qui reposent tranquillement au fond de l'eau. C'est en tout cas ce que craignent nombre de biologistes marins qui ont appelé à plusieurs reprises à un moratoire sur l'exploitation minière sous-marine au cours des dernières années. De leur côté, les industries affirment que l'activité minière sera moins dommageable sous l'eau que sur Terre et qu'elle est de toute façon nécessaire pour répondre à la demande croissante en véhicules électriques. À l'été 2024, les membres de l'Autorité internationale des fonds marins, AIFM, une organisation de l'ONU, se sont réunis pour avancer sur l'adoption de réglementations régissant l'exploration et l'exploitation des zones situées au-delà des limites des juridictions nationales. L'objectif est d'adopter un code minier en 2025. L'autorité dont sont membres les 167 États et entités signataires de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer joue sur deux tableaux difficiles à concilier. Elle doit à la fois réguler l'exploitation minière et s'assurer que ses activités n'entraînent pas de conséquences écologiques préjudiciables aux grands fonds marins. À ce jour, elle a délivré une trentaine de permis d'exploration pour divers pays et compagnies. Plus de la moitié concernent les nodules polymétalliques du Pacifique. Par ailleurs, les pays étant souverains dans leurs eaux territoriales, d'autres projets miniers peuvent voir le jour sans l'accord de l'AIFM. En janvier 2024, la Norvège est devenue le premier pays à autoriser l'exploration minière commerciale dans ses eaux profondes. C'était « Découverte étonnante dans les abysses » de l'oxygène noir produit par « Des roches », un texte de Marine Cornu, paru le 19 mars 2025 dans Québec Science.
Dr. Michel Bruneau, médecin de l'année. Un texte de Marie Wielgoki, paru le 25 mars 2025 dans La Liberté. Dr. Michel Bruneau a reçu le prix de médecin de l'année aux côtés de sa consœur, Dr. Selena Papetti, décerné par Doctors Manitoba. Retour sur son parcours et sa vision du système de santé actuel. Ce n'est pas la première fois que Dr. Michel Bruneau gagne un prix. En 2015, le médecin avait remporté le prix du meilleur médecin de famille, décerné par le Collège des médecins de famille du Manitoba. 10 ans après, il remporte la récompense du médecin de l'année de la province. « C'est un très grand honneur pour moi », affirme Dr. Bruneau. Sur tous les fronts. « J'ai toujours pratiqué au Manitoba », assure le médecin, qui a commencé sa carrière à Somerset, où il a ouvert la clinique de médecine familiale rurale Somerset Place. Ce dernier a toujours été très actif pour mettre en place des projets. Après Somerset, il participe à la mise en place du groupe médical du lac Dubonnet et en devient le directeur général. Depuis 2012, il siège au College of Physicians and Surgeons of Manitoba. Le docteur Michel Bruno est aujourd'hui sur tous les fronts. La majeure partie de son temps, le médecin de famille travaille dans la clinique au lac du Bonnet, située au nord-est de la capitale manitobaine. À côté de ce poste, il rejoint, deux jours par semaine, le service d'oncologie de l'hôpital de Pinawa en tant que médecin de service et d'urgence. Par ailleurs, il participe à un programme pour les patients atteints de cancer. Nous administrons les traitements de chimiothérapie aux patients proches de chez eux. Ils ne sont plus obligés de se déplacer à Winnipeg pour accéder à leur traitement. Le médecin fait partie des professionnels de santé francophones. Il reconnaît que la prise en charge en français pour de nombreux patients est importante. Pour les patients francophones, c'est plus facile de parler en français et d'échanger sur leurs symptômes pour trouver le traitement adapté. Un système de santé à bout de souffle. Le système est complètement pressé, déplore le médecin. C'est difficile pour les personnes de trouver les soins dont ils ont besoin et à temps, affirme-t-il. Qualifiant aujourd'hui de challenge les conditions d'exercice des professionnels de soins, Dr. Michel Bruno s'inquiète d'une ligne franchie qui rend difficile la possibilité de fournir aux patients des soins de qualité. Mais si aujourd'hui les médecins se heurtent à des difficultés pour traiter les patients, c'est lié à un manque certain de moyens. Il n'y a pas assez de médecins, pas assez de lits, pas assez de ressources, pas assez de diagnostics, constate le médecin, qui souligne que le système de santé n'a pas grandi en même temps que la population manitobaine. Pour lui, le système actuel ne peut pas être efficace à 100%. On cherche le système le plus efficace, comme si les professionnels de santé étaient des machines, mais nous sommes des humains et nous ne pouvons pas travailler 24 heures sur 24. En juillet dernier, le syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba, MGEU, rapportait qu'au rural, certains établissements relevaient 40 % de postes à pourvoir. Le médecin partage une récente anecdote illustrant parfaitement les difficultés auxquelles font face les professionnels de santé. Il raconte avoir déjà passé une nuit au téléphone pour essayer de transférer un patient à l'hôpital de Winnipeg pour des soins plus intensifs. Nous étions 4 médecins à attendre au téléphone en même temps en demandant qu'un lit se libère pour un patient, raconte-t-il. C'était Dr. Michel Bruno, médecin de l'année. Un texte de Marie Wiel Gocky, paru le 25 mars 2025 dans La Liberté.
Montréal adopte son règlement qui limite les Airbnb à 3 mois par année. Un texte de Marco Fortier paru le 18 mars 2025 dans Le Devoir. Le Conseil municipal de Montréal a adopté mardi le nouveau règlement sur l'hébergement touristique qui interdit la location d'une résidence principale 9 mois par année sur les plateformes comme Airbnb. Pour laisser les hôtes honorer leur réservation actuelle, les locations à court terme restent autorisées jusqu'au 10 juin 2025, mais à compter de cette date, l'offre sera permise uniquement pour une période de 3 mois par année, du 10 juin au 10 septembre. Le responsable de l'habitation au comité exécutif, Benoît Doré, a fait valoir la nécessité d'agir contre le fléau de la location de résidences aux touristes pour offrir les logements en priorité aux locataires montréalais. En limitant les activités d'Airbnb aux 3 mois d'été, la ville dit faciliter le travail de l'escouade municipale chargée de sanctionner les propriétaires fautifs, les lourdes procédures administratives en vue de poursuites en cours contre les contrevenants céderont la place à un système de contravention délivré dès le constat d'une location hors de la période autorisée. La ville s'apprête à embaucher 4 inspecteurs supplémentaires, ce qui portera à 7 le nombre d'employés ayant pour mission de traquer les contrevenants. L'escouade disposera aussi de 2 préposés à l'information supplémentaire. Ils seront désormais 4. Le Parti Ensemble Montréal, qui forme l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, militait plutôt pour l'embauche de 9 inspecteurs et de 4 préposés supplémentaires pour donner du muscle à la lutte contre l'hébergement touristique illégal. Non aux locations en hiver. La formation politique souhaitait aussi faire autoriser les activités d'Airbnb pour 3 mois supplémentaires, soit la période du 15 décembre au 15 mars. Le tourisme hivernal est en hausse, ce qui augmente la demande en logements touristiques. Une portion importante des hôtes d'Airbnb ont aussi besoin des revenus générés par l'accueil de visiteurs en cette période d'explosion du coût de la vie, a fait valoir Julien Hénaud-Ratel, porte-parole d'Ensemble Montréal en matière d'habitation. Il a aussi réclamé que les hôtes Airbnb puissent faire leur demande de permis municipal entièrement en ligne. La ville a toutefois insisté. La demande se fait en ligne, mais une fois la délivrance du permis autorisé, les demandeurs doivent se déplacer dans un bureau Accès Montréal pour fournir une pièce d'identité avec photo et leur dernier avis de cotisation provinciale en papier. Il est plus compliqué de falsifier les documents en papier que les documents numérisés. L'administration de Valérie Plante, qui détient la majorité des sièges à l'Hôtel de Ville, a rejeté les propositions de l'opposition. Le permis municipal, au coût de 300 $, sera renouvelable chaque année. Les hôtes Airbnb doivent aussi se procurer un numéro de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Ce nouveau règlement municipal encadre la location d'une résidence principale à court terme sur Airbnb et sur d'autres plateformes d'hébergement touristique comme Booking ou VRBO. La location de logements touristiques situés en zone commerciale qui ont un permis municipal adapté reste autorisée toute l'année. C'était Montréal adopte son règlement qui limite les Airbnb à 3 mois par année. Un texte de Marco Fortier paru le 18 mars 2025 dans Le Devoir.